Bonsoir, je vous remercie d'être là pour la conférence inaugurale de cette 10e édition des Printemps des sciences humaines et sociales, donc cette période pendant 3 semaines pendant laquelle la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société vous invite à venir écouter des conférences et ou participer à des ateliers autour d'une thématique différente chaque année. Et donc cette année, c'est la thématique des marges. Et je suis très heureuse de recevoir Michel Vévorka, qui est lui aussi un directeur de Maison des sciences de l'homme, mais directeur de la Fondation des Maisons des sciences de l'homme, qui depuis quelques mois a retrouvé son siège, Boulevard Raspail, ce qui est... moi, je suis née à 20 mètres de la MSH, de Boulevard Raspail, donc c'est toujours très agréable d'y retourner. Puis je vais raconter juste une toute petite anecdote pour faire sourire 2 minutes. Nous avons fait un colloque en novembre dernier et invité un collègue autrichien de Vienne qui vient me voir et qui me dit « Mais c'est incroyable, la fondation de la Maison des sciences de l'homme n'est plus à Paris, maintenant c'est à Lille ». Et donc, je dis que je raconterai ça à Michel. Donc, je suis très heureuse de recevoir Michel Vévorka. Je vous remercie d'être présent. Vous avez le programme. Je ne vais donc pas le présenter. Faites juste attention. Toutes les conférences n'ont pas lieu à la même heure. C'est pas forcément ici. Donc, juste être un petit peu attentif si jamais vous voulez nous suivre là pendant ces 3 semaines. Et je remercie aussi Jean-Gabriel Contamin qui est directeur d'une des unités affiliées à la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, plus maintenant. Depuis, il est directeur adjoint, depuis deux mois peut-être, puisqu'il est devenu doyen de la faculté des sciences juridiques, comment elle s'appelle, faculté sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Lille fusionnée. Donc merci Jean-Gabriel, et donc je vous cède la parole.
Bon, j'y vais. Bonsoir, merci Martine de ces quelques mots. Moi, je suis très heureux d'être ici, et je dirais même l'occasion pour moi de retrouver des strates plus ou moins éloignées de mon existence ici, puisque d'un côté, mon ami Georges, on se connaît des années 80 ou 90, et de l'autre côté, mon ami Ghislaine, j'ose pas dire depuis combien de temps on ne s'était pas vu, mais disons que c'était avant 68 que nous étions au même lycée. 53 ans. Donc Martine, tu vois, la maison de Lille, c'est quand même un lieu qui a de l'épaisseur historique. Et je suis donc très très heureux d'être ici. Et donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je ne pense pas que ce soit le lieu de... Je ne suis pas invité ici à titre institutionnel, mais comme chercheur, je dirais simplement que la FMSH fait partie du réseau des MSH et qu'on est toujours très très heureux d'être en relation avec les uns et les autres. Alors, je vais commencer en vous disant que j'étais bien embêté quand on m'a invité à venir parler marginalité, parce qu'il y a 3 ans, on m'avait demandé exactement la même chose pour un colloque au Japon. Et je me suis dit, pour peu que mon intervention au Japon prenne sur Internet quelque part, on trouve tout maintenant sur Internet, ou bien je dis des choses différentes et je manque de constance, ou bien je dis la même chose et je manque d'originalité. Vous voyez, c'est délicat. Donc, j'ai essayé de construire quelque chose qui est différent de ce que j'avais dit à Tokyo, mais pas non plus complètement différent, hein, si par hasard vous tombez sur mes anciennes interventions. Et quand j'étais allé à Tokyo, c'était il y a 3 ans, je crois, pour ce thème, j'avais introduit mon exposé en citant le fondateur ou un des fondateurs de l'école des annales, l'historien Lucien Febvre. Parce que j'avais trouvé une phrase de lui assez étonnante. Il avait dit « Peu importe la marge, c'est le cœur qu'il faut avant tout considérer. » Donc en gros, la marge ne compte pas, c'est le cœur qu'il faut considérer. J'avais déjà à l'époque critiqué cette formule, ou l'idée qu'il y avait derrière cette formule, et j'avais d'ailleurs constaté dans des débats de géographes que cette formule avait suscité beaucoup de critiques chez les géographes, en tout cas chez les jeunes géographes qui s'étaient réunis, j'ai noté la date ici, pour un colloque, là encore sur ce genre de questions, en février 2013. Mais aujourd'hui, je ne vais pas commencer seulement par cette citation que je viens de faire, « Peu importe la marge, C'est le pire qu'il faut avant tout considérer. Je vais introduire, au contraire, quelque chose qui dit le contraire, ou pratiquement. Et ce quelque chose qui dit le contraire, c'est des paroles que j'ai entendu prononcer. J'ai vu que vous alliez faire quelque chose avec ATD Quart-Monde, qui sont des gens éminemment respectables. Et lors d'une rencontre récente que j'avais eue avec quelques personnes, dont une dirigeante d'ATD Quart-Monde, qui s'occupait plus spécialement des questions de santé, elle avait dit quelque chose qui m'avait fait beaucoup, beaucoup gamberger. Elle avait dit, en gros, bien des problèmes de société sont perçus et pensés par les plus pauvres bien avant qu'ils le soient par le reste de la société. Et par conséquent, la marge, l'extrême pauvreté, comme avant-poste intellectuel et peut-être politique, de compréhension politique de la vie collective, c'est une idée qui m'avait vraiment beaucoup intéressé, beaucoup. Et donc vous voyez, peu importe la marge, dit l'un, vive la marge, si j'ose dire intellectuellement, dit l'autre. Autant dire, c'est ça l'idée initiale que je voudrais vous soumettre, que l'ambivalence est constante dans les sciences sociales dès qu'il s'agit de la marge ou des marges, de la marginalité, et que c'est vraiment pas difficile de faire apparaître des couples d'opposition ou des contradictions dans la littérature des sciences sociales ou assimilables. D'un côté, par exemple, on vous dira que les marges sont plutôt extérieures au système, elles en sont très éloignées, on est un peu du côté de chez Fèvre, mais au contraire, d'autres vont nous dire, on est plutôt du côté de cette dirigeante d'ATD Quart-Monde, non, la marge n'est peut-être pas au cœur du système, mais elle nous permet de penser le cœur du système, d'y rentrer intellectuellement, et que la marge, ça ne veut pas dire qu'on est totalement exclu de la capacité de penser les choses. On vous dira aussi, la marge, finalement, c'est quoi? C'est la folie, c'est la déviance, c'est le pathologique, c'est la grande précarité. Et puis on vous dira, oui, mais attendez, la marge, c'est peut-être aussi la créativité, l'invention, l'innovation. Alors, la pathologie, la folie ou l'innovation. Vous trouverez aussi des axes d'analyse entre la marge, c'est plutôt... le contraire du normal, c'est plutôt le pathologique, ou bien très différemment, la marge doit être lue selon des logiques d'inclusion ou d'exclusion qu'elle vient signifier. On pourra vous dire que les marges sont dangereuses, et dire au contraire que les marges ont besoin d'être aidées pour des raisons ne serait-ce qu'humanitaires. Ce n'est pas la même chose. On pourra dire que les marges, c'est un problème pour l'État, le contrôle social. On pourra dire aussi que les marges, c'est un enjeu pour une action humanitaire. Enfin, je pourrais continuer comme ça, essayer de vous proposer plus ou moins fortement des couples d'opposition. Est-ce que c'est un danger ou est-ce que ça appelle au contraire de la solidarité, de l'humanisme? Oui, ce genre de choses. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que je vais évidemment parler. Je vais... en gros, partir du fait que je préciserai plus tard, qui est qu'il n'est pas difficile dans la littérature des sciences sociales, je serai plus précis ensuite, de distinguer d'une part tout un ensemble de travaux très diversifiés qui se demandent comment sont produites les marges. Qu'est-ce qui fait que des gens se retrouvent en marge, ou pas en marge, en marge, ou à la marge. Bon, pour d'une manière ou d'une autre... Et puis d'autres, au contraire, qui vont dire qu'est-ce qu'apportent les marges à la société? Quel est l'apport, négatif ou positif, des marges à la société? Je vais vous donc résumer par deux tout petits mots ce dont je vais vous parler ce soir. Je vais essayer de distinguer d'abord, d'analyser d'abord ce qui produit les marges et ensuite ce que produisent les marges. Ce sera en deux temps. Donc j'ai un plan en deux parties. C'est pas très Sciences Po, je crois, mais enfin... Au contraire, c'est très... Je mélange toujours. Alors c'est pas trop Normal Sup, enfin bref, ouais, c'est voilà. C'est pas très Normal Sup, c'est plutôt Sciences Po. Bon, voilà. Donc, bon. Alors, le sociologue qui veut regarder la littérature sur la marginalité, sur les marges, je crois que son premier geste, en tout cas ça a été le mien, très spontané, c'est d'aller voir ce qui se dit du côté de ce qu'on a appelé l'école de Chicago. Mais il faudrait dire les écoles de Chicago, je n'entre pas dans cette discussion, enfin les spécialistes vous disent que c'est un peu artificiel de dire qu'il y a eu une grande école de sociologie de Chicago. Et au sein de l'école dite de Chicago, une très haute figure, Robert Park, qui est peut-être celui qui, le premier, a donné de l'importance à l'étude de la marginalité. Alors, je vous rappelle ce qu'est Chicago dans les années 1910, 1920 et encore 1930. C'est une ville qui est en plein boom, une immigration extrêmement importante, très diversifiée. C'est une ville industrielle, c'est une ville trépidante, c'est la ville centrale pour qui s'intéresse à la prohibition. Moi, quand j'étais jeune, je regardais les films d'Eliot Ness, des choses comme ça. Bon. Et cette école dite de Chicago, c'est des sociologues qui ont comme grande qualité de valoriser l'étude de terrain, l'étude empirique. Ce n'est pas des empiricistes, ce n'est pas des gens qui vous disent que la théorie ne compte pas, mais c'est des gens qui donnent beaucoup d'importance à la connaissance concrète. Et que nous dit Park, donc la haute figure de cette école dans les années 20, la marginalité a quelque chose à voir, je le cite, avec un nouveau type de personnalité, c'est comme ça qu'il parle, qui est né des phénomènes migratoires de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Et voilà ce qu'il dit de ce qu'on appelle dans cette littérature de Chicago de l'homme marginal. Il dit, vous m'excuserez, je le cite en anglais parce que c'est très très court, je pourrais le traduire ensuite, l'homme marginal c'est « a cultural hybrid », donc un hybride culturel, « a man living and sharing intimately in the cultural life and traditions of two distinct peoples ». Un homme qui vit et qui se partage, et qui partage sa vie de façon intime entre deux cultures, entre deux traditions de deux peuples. « A man on the margin of two cultures and two societies, which never completely interpenetrated and fused ». Donc c'est, le marginal, c'est celui, en fait, qui est à la marge. C'est l'homme qui est à la marge de deux cultures, de deux sociétés qui ne se sont jamais complètement interpénétrées ou fusionnées. Voilà ce que dit donc, dans un texte qui a été publié en 1928, Robert Park. Quelques années plus tard, le ton est plus négatif, je crois, dans un texte alors important, une des grandes encyclopédies de sociologie, la Blackwell Encyclopedia of Sociology, qui était dirigé par Georges Ritzer, c'est un livre, c'est 10 ou 12 volumes, enfin bon. Et donc, dans cette encyclopédie, il y a un article sur la marginalité, et l'auteur de l'article, donc sur la marginalité de cette grande encyclopédie, nous dit, il ne faut pas parler seulement de Park, il faut aussi regarder Stonequist, autre sociologue moins important, qui lui aussi s'intéresse à la personnalité, à la marginalité, qui insiste sur la personnalité du marginalisé, du marginal man, et qui dit en gros, il est irrationnel, il est caractériel. Il utilise le mot en anglais « moody », un « mood ». Bon. Et donc, là, vous voyez, ça devient un petit peu négatif. Hein, l'homme marginal, il n'est pas simplement décrit presque techniquement comme un cheval sur deux cultures, il est décrit comme un peu pathologique, si vous voulez. Et donc, vous trouverez d'autres sociologues américains, évidemment, dans des veines assez proches. Les uns vont insister, d'autres moins, sur la personnalité des marginaux et sur le fait que la situation marginale relève de cette rencontre donc de cultures, mais que c'est qu'un problème, c'est une question sociale avant tout. Qu'autrement dit, et c'est ça la littérature qui va se développer dans ces années 30, la marginalité est un phénomène qui va d'abord être examiné en termes sociaux, en termes d'inégalité des statuts, inégalité des structures d'opportunité, on dirait aujourd'hui inégalité des chances. Et donc, si je résume un peu tout ce que je suis en train d'évoquer, je vous dirais, dans un vocabulaire qui n'est évidemment pas celui de l'époque, il y a dans ces descriptions de la marginalité, ces approches de la marginalité, l'idée, je trouve, d'une intégration pas parfaite, non réussie ou pas parfaitement réussie, ou d'une intégration suspendue. Parce qu'on est dans les États-Unis, c'est-à-dire un pays où le credo, c'est on monte socialement. Grâce au travail, on réussit, on gagne de l'argent et l'intégration se fait par la mobilité ascendante. Eh bien, la marginalité a quelque chose à voir avec le retard, la difficulté, l'incapacité à s'intégrer pleinement dans cette société américaine. Et donc, c'est quand même finalement une définition assez triste, assez négative de la marge. On ne dit pas du tout qu'elle fait peur, qu'elle est dangereuse. Non, non. Mais il y a quelque chose de l'ordre du constat d'échec ou de carence ou de difficulté. Alors, j'ajoute que dans la littérature que j'ai pu consulter un petit peu, non seulement il s'agit de deux mondes vraiment issus de l'immigration, hein, dans les travaux de cette école de Chicago, mais qu'ensuite il y a des chercheurs qui vont se réclamer de ce mode de pensée pour étudier d'autres groupes et d'autres populations que migrantes ou issues de l'immigration. Et vous trouverez des travaux sur les homosexuels, par exemple, ou sur les malades mentaux. En tout cas, la marginalité, c'est une difficulté, c'est un problème, c'est l'incapacité ou le manque d'accès aux fruits de la modernité. Voilà. Et à la limite, des individus, des groupes n'arrivent pas à trouver pleinement leur place dans la société. Ils se heurtent à des barrières, ils s'enferment dans des rôles limités. Bon. Alors, c'est un peu ça pour moi la marginalité, si je prends l'ensemble de ce qu'on appelle les travaux de l'école de Chicago. Je ne suis pas un expert de l'école de Chicago, je tiens à le dire tout de suite, mais enfin, il y a beaucoup de travaux. Ça ne veut évidemment pas dire que dans cette perspective, tous les migrants sont des marginaux. Au contraire, l'école de Chicago montre qu'en général, les migrants trouvent leur place dans la société. Il y a même des très beaux textes où ils montrent comment ça se fait. Il y a un livre de Louis Wirth, W-I-R-T-H, sur le ghetto, qui est très intéressant. Ce que dit Wirth du ghetto, ce n'est pas du tout la marginalité. C'est des gens arrivent, alors là, il parle des Juifs, il parle du ghetto de Chicago, il ne parle pas seulement du... Il y a un chapitre ou deux sur le vieux ghetto en Europe, mais ce qui l'intéresse, c'est le ghetto juif de Chicago. Il dit en gros, le ghetto, c'est l'endroit où arrivent des migrants juifs qui viennent d'Europe. Ils arrivent là, et plus ils réussissent, plus ils sortent du ghetto pour aller s'installer ailleurs. Donc ils étudient la localisation de l'habitat. Bon. Et quand ça va mal, quand il y a une période de crise économique, quand il y a des difficultés, ou quand c'est le cas pour certaines personnes, eh bien les gens retournent au ghetto. Donc le ghetto, c'est un lieu, si vous voulez, oui, qui permet d'apporter la solidarité, les protections, la communauté à des gens qui en sortent lorsque ça va bien. Bon, donc c'est ça plutôt, c'est pas du tout la marginalité hein, dont il est question ici. Alors, à partir de là, on peut poser d'autres questions. Et les autres questions, c'est mais comment est-ce qu'on devient marginal? Et là, on rentre dans d'autres approches. Comment devient-on fou, malade mental, délinquant, très pauvre, déviant? Et là, je voudrais introduire une question qui traverse toute la sociologie, mais qui traverse beaucoup c'est ce genre d'objets ou de préoccupations. C'est la question de savoir quel est le type d'approche que l'on va privilégier entre deux grandes orientations. Est-ce qu'on va partir pour réfléchir à cette question du système ou est-ce qu'on va partir des individus? C'est une vieille question de la sociologie. Les meilleurs travaux circulent évidemment toujours entre l'individu et le système. L'acteur et le système, disait Michel Crozier il y a très très longtemps. Mais en gros, il me semble que dans l'ensemble, au-delà donc de cette école de Chicago, très souvent, les sciences sociales, en ce qui concerne la production des marginaux, se sont intéressées beaucoup plus au système, à la société, à des déterminations générales qu'aux individus, à des mécanismes, autrement dit, à l'idée par exemple que la marginalité, c'est le fruit de certaines logiques de domination, de logiques d'exclusion, de politiques publiques qui poussent certains groupes ou certaines personnes en dehors ou aux marges de la vie sociale. Bon. Et j'ajoute qu'en plus, ce type de logique, quand on les évoque, certains travaux insistent sur le fait qu'il s'agit en plus d'invisibiliser ceux qui sont poussés comme ça en dehors par le système ou par la société, de ne pas les laisser voir, de ne pas les donner à voir. Et que c'est le rôle, c'est ce que j'ajoute moi, c'est le rôle des médias, des intellectuels et des chercheurs, comme la plupart d'entre nous ce soir, que justement de donner à voir ce qui n'est pas visible. Alors chacun à sa façon, et je dirais même, mais là, c'est juste pour citer son nom, que si nous sommes si nombreux à aimer Michel Foucault, c'est entre autres raisons parce qu'il a toujours eu cette préoccupation de faire entendre ou de faire voir ce que la société ne veut pas entendre ou ne veut pas voir. Alors, la visibilité, elle est faite par les médias, elle est faite par les chercheurs, elle est faite par les intellectuels, elle est faite par toutes sortes d'acteurs, évidemment. Et je voudrais insister sur un point ici, c'est que cette visibilité de ceux que la société rejette et qu'elle rend d'habitude invisible, elle est un mélange très souvent, lorsqu'elle devient visibilité donc, elle est un mélange de connaissances, proprement disons intellectuelles, et éventuellement d'action politique. Et je vais en donner un exemple qui, ici à Lille, devrait être de l'ordre, me semble-t-il, de l'évidence. Vous avez d'un côté eu en France de nombreux travaux pour montrer comment le monde ouvrier avait été invisibilisé, rejeté. Il a quitté les villes, il a quitté les banlieues, il se retrouve dans les périphéries les plus lointaines. Je n'entre pas dans tous ces travaux, des géographes, des démographes ou des démographes politiques, si on veut. Enfin, il y a eu toutes sortes de choses, plus ou moins contestables, des Gilly, des Lebras et autres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps que ces travaux prospéraient, on a entendu Marine Le Pen et le Front National dire il faut s'occuper des oubliés et des invisibles, des gens mis à la marge, poussés à la marge. Vous direz, des laissés pour compte, si vous voulez. Eh bien, je crois que ce n'est pas inintéressant de se poser ce genre de questions quand on a des analyses qui vous expliquent comment des gens sont transformés en marginaux, sont marginalisés et invisibilisés. Lorsque les analyses l'expliquent bien, ça peut donner aussi, comment dirais-je, du discours politique. Alors, jusqu'ici, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est le système qui produit tout ça, des logiques politiques, des logiques sociales. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que la marginalité est, au moins chez certains, dans certains cas, pour une certaine part, à certains moments, qu'elle peut être voulue, qu'elle peut être désirée, qu'elle peut être un choix. Et si on dit ça, l'analyse va partir des marginaux eux-mêmes pour essayer de voir dans quelle mesure il n'y a pas une part dans leur histoire individuelle ou collective, une part d'autoproduction de la marginalité, pour le dire comme ça. Après tout, il existe des groupes marginaux qui sont des groupes culturels, des groupes économiques, parfois même des groupes politiques, des petites communautés, des gens qui sortent. La contre-culture a été faite de gens comme ça, dans les années 60-70, des gens qui sortent de la société pour vivre autrement et parfois même pour conduire une action collective. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir qu'est-ce qui fait que certains de ces groupes sont plus, je vais utiliser le vocabulaire très contemporain, résilients que d'autres. Et donc je pense moi que la résilience est forte lorsque ces groupes se constituent sur une base fortement culturelle ou religieuse. Que s'il n'y a qu'une définition uniquement sociale, une utopie sociale par exemple uniquement, ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, on peut évidemment essayer de montrer que dans certains cas, la marginalité est un choix, une décision, un effort d'acteur qui se constitue de cette manière-là. Mais il me semble, c'est une sorte de longue introduction par rapport à ce qui va suivre maintenant, que le point de vue dominant dans les sciences sociales, quand il s'agit de réfléchir à la production de la marginalité, c'est que c'est le système, la société qui fabrique les marginaux. Et on rentre là, alors là, vraiment au cœur de ce qui est, je crois, la sociologie la plus installée sur ces questions, c'est la sociologie qui va étudier la déviance par rapport aux normes. Alors, si on regarde la tradition sociologique, on pourrait commencer avec Émile Durkheim et aller au moins jusqu'au fonctionnaliste américain. Alors, il faut connaître un tout petit peu, je ne suis pas un grand expert, mais l'histoire de la sociologie américaine, c'est quand même l'histoire d'une sociologie qui est d'abord dominée par l'école de Chicago, dont je vous ai parlé en introduction, et puis ensuite arrive le fonctionnalisme, les gens de Harvard contre les gens de Chicago, si vous voulez, arrive Parsons, surtout, puis Merton, puis d'autres, et c'est l'école fonctionnaliste qui est assez différente, même si ce n'est pas complètement contradictoire avec l'école de Chicago. Et là, on rentre donc dans toutes sortes de traditions qui vont, comme je viens de le dire, de Durkheim au fonctionnalisme. La marginalité est assimilée à une déviance, et la déviance, c'est le refus ou la violation des normes sociales. Une société a besoin de normes, les marginaux sont ceux qui ne respectent pas les normes. Et quand des gens ne respectent pas les normes, il faut qu'ils soient sanctionnés. Donc l'idée d'un lien entre marge, j'éteins ce truc, excusez-moi, entre marge et déviance, et là, on va rencontrer, là encore, des approches assez diversifiées. Certains vont dire c'est la société dans son ensemble qui fabrique la marginalité. D'autres vont dire la marginalité se construit socialement, certes, mais au fil d'interactions, plus ou moins limitées. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire c'est à l'issue d'une série d'interactions que les gens se retrouvent clochards, fous, malades mentaux, enfermés dans un asile, dans un hospice, etc. Bon. Mais là, à partir de là, il y a bien des discussions qui vont être possibles. Qui définit les normes dans une société? Comment est-ce qu'on définit la norme? Et à qui est-ce qu'on applique la norme? Est-ce que la déviance ne serait pas tout simplement ce que les dominants considèrent comme déviance? Et donc, on va rentrer dans des travaux très intéressants dans lesquels on va dire que la déviance, c'est ce qui permet à un groupe dominant de disqualifier les dominés, les minoritaires. Et là, vous m'aviez demandé, c'est Martine, je crois, qui m'avait demandé de parler de Howard Becker, enfin, je ne sais plus, enfin, mais, pardon ? C'était Mathilde, voilà. Alors, évidemment, il faut citer de ce point de vue-là Howard Becker, parce que c'est le sociologue le plus célèbre de ce point de vue-là, hein, pour son livre, qui est un petit bijou, que tout le monde doit lire, hein, ça se lit très facilement, qui s'appelle « Outsiders ». C'est une dizaine ou une quinzaine de toutes petites études, c'est des chapitres de, très très différents, qui s'appellent « Outsiders », l'éditeur français a gardé le titre américain, bon, et qui montre comment certains groupes sociaux créent leurs normes et créent aussi leurs déviants, bon, qui sont des « outsiders ». Le déviant, si on suit Becker, c'est celui à qui le label de déviant est appliqué avec succès. Et donc la marge, la déviance, c'est des constructions sociales. Hein. C'est pas, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Ça n'a donc rien de très, très objectif. Alors parfois dans la littérature spécialisée, à propos de la déviance, on oppose, alors qu'en réalité elles sont plutôt complémentaires, des approches qu'on appelle constructionnistes, la déviance est construite, et des approches qu'on appelle explicatives. C'est-à-dire, on s'intéresse non pas tant au système ou même aux interactions qui produisent la marge ou qui produisent la déviance, mais, et là on retrouve un peu des choses que je vous ai dit tout à l'heure, aux raisons qui poussent des individus ou des groupes vers elles. Et donc là, on va se rapprocher un peu de démarches plus centrées sur l'individu que sur le système, mais le système n'est jamais très loin en réalité. On va dire qu'il est comme ça parce que son enfance, son éducation, sa famille, le chômage, la misère, le racisme vécu, l'environnement, bon, etc. Et donc, en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à la subjectivité des personnes, on s'intéresse plutôt à la socialisation primaire ou à des processus dans lesquels des individus semblent avoir fait des choix, mais en réalité ont été poussés. Il y a un très beau livre de Goffman, que vous connaissez peut-être, sur l'hôpital psychiatrique. Et dans ce livre de Goffman, il explique comment les individus se retrouvent à l'hôpital psychiatrique. Et donc, c'est toute une série, une accumulation de décisions qui sont prises, si je peux dire, sur son dos. Alors, il y a peut-être une personnalité aussi, mais il n'empêche que c'est quand même la famille qui prend des décisions, les médecins qui prennent des décisions, le directeur de l'hôpital, etc. Alors, à ce stade, si vous voulez, je dirais volontiers ceci. Il me semble, mais tout ça peut être bien sûr discuté, il me semble que si l'on veut comprendre comment est produite la marginalité, comment sont produits les marginaux, eh bien, il y a dans l'ensemble deux types d'explications, mais que les explications qui sont proposées sont dominées par l'idée que c'est la société qui produit ça, c'est des systèmes, c'est des logiques sociales, des mécanismes sociaux, des processus sociaux qui peuvent être variés. Ce sont plutôt ces explications-là qui sont privilégiées, plutôt que les explications qui insistent sur le fait que les acteurs eux-mêmes se constituent en marginaux. Voilà ce que je voulais dire pour mon premier point, qui est la production de la marginalité. Comment est produite la marginalité dans les sciences sociales? Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, vous ne le cacherez pas, c'est le deuxième point de ce dont je voudrais vous parler, c'est ce que produit la marge socialement, politiquement, culturellement. Et donc, je voudrais essayer de vous dire ceci. Bien sûr, il est intéressant de voir comment la société fabrique des problèmes sociaux et fabrique des groupes sociaux et fabrique des marginaux. Bon, mais il me semble peut-être plus excitant intellectuellement de se demander quel est l'apport des marges, qu'est-ce qu'elles produisent comme effet dans la société, qu'est-ce qu'elles annoncent, qu'est-ce qu'elles laissent à comprendre. Et là, il faut réfléchir, à mon avis, tout à fait autrement. Mais si je devais dire ce que je suis en train de vous dire en chanson, je vous dirais, avec ma gueule de pâtre grec, de juif errant, de métèque, etc., ben, je produis quelque chose. Et c'est ça un peu l'idée. C'est que, oui, le marginal a un impact sur la société. Alors, aussitôt que l'on dit, que l'on réfléchit comme ça, on s'écarte de ces définitions toujours plus ou moins stigmatisantes ou négatives du marginal. Hein ? Parce que si je vous dis que le marginal produit quelque chose comme un impact sur la société, je cesse d'en avoir l'image, des images qui risquent d'être très vite délinquante, asociale, etc., ou même des démarches qui en font une victime de l'ordre social ou de la domination. Et je voudrais donc vous présenter trois idées, ce sera ça le cœur de mon exposé ce soir. Première idée, la marge a peut-être quelque chose à voir avec la formation de nouveaux conflits sociaux, de nouveaux mouvements sociaux. On pourrait parler comme Jean-François Lyotard. Avant les grands récits dont parlait Lyotard, ben, il y a la marge, dans certains cas, premièrement. Deuxièmement, la marge, elle a peut-être quelque chose à voir avec les valeurs de démocratie humanitaire, de droits de l'homme. Elle a quelque chose, elle est productrice de normes morales et démocratiques. Peut-être le deuxième point dont je voudrais vous parler un petit peu. Et enfin, le troisième point dont je voudrais vous parler un tout petit peu, c'est que la marge a quelque chose aussi à voir avec l'invention culturelle, l'innovation, la créativité culturelle. Donc c'est ces trois registres-là que je vais explorer, sans vous dire du tout que la marge, c'est uniquement ce dont je vais vous parler maintenant, bien sûr, mais que je trouve que pour un sociologue, c'est plus intéressant de regarder l'apport de la marge plutôt que sa production. Alors le premier point, donc, socialement. Alors là, je vais commencer par un livre que beaucoup d'étudiants lisent en sociologie et qu'ils ont raison de lire quand ils s'intéressent à l'histoire du mouvement ouvrier et à la sociologie du mouvement ouvrier. Très vite, il faut lire le livre de Louis Chevalier. Alors Louis Chevalier, c'est un historien qui a écrit une thèse très connue, publiée en 1958, et le titre du livre tiré de la thèse, je ne sais pas si c'est exactement la thèse, mais c'est « Classe laborieuse et classe dangereuse à Paris » pendant la première moitié du 19e siècle. C'est publié chez Plon. Donc, Louis Chevalier étudie ce qu'il appelle des classes dangereuses. Et il montre une chose très intéressante. Il montre que, disons, dans la première moitié du 19e siècle, mais ensuite aussi, je pense, à continuer jusqu'au début du 20e siècle, vous vous souvenez peut-être du phénomène qu'on a appelé les Apaches, hein, casque d'or. Bon, eh bien, il montre comment on parle de choses dangereuses, de criminalité dans certains quartiers, plus ou moins excentrés, et comment tout ça, en fait, c'est l'amorce de la constitution, de la naissance d'une classe ouvrière, d'un mouvement ouvrier. La marge, en l'occurrence, pire que la délinquance, c'est le crime, la marge, les classes dangereuses, eh bien, en fait, sont l'amorce ou l'annonce dans la façon dont elles sont vécues de ce qui sera le mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle. Et donc, il faut comprendre, suggère Louis Chevalier, qui était pourtant un drôle de personnage, qui est un homme, je crois, d'après ce que j'ai lu, très, très réactionnaire, mais enfin, son livre n'est pas réactionnaire. Bon, il faut comprendre que les espaces marginaux, ceux qui font tellement peur à la bourgeoisie, ben, sont ces espaces qui sont peuplés d'ouvriers, de prolétaires. Et donc, un beau jour, les classes dangereuses vont être perçues comme étant des classes laborieuses. C'est ça l'idée de ce livre. Deuxième auteur dont je voudrais dire un mot, parce que c'est quelqu'un que j'ai profondément admiré pour de toute autre raison, Bronislav Geremek. Alors, ceux d'entre vous qui avez suivi l'histoire de la Pologne dans les années 60, 70, 80, Solidarność, connaissent le nom de Geremek. C'était un très grand monsieur qui a eu un rôle très, très important dans la démocratie, dans Solidarność. Enfin, c'est vraiment un personnage de la plus haute importance. Mais avant d'être ce personnage politique, c'est un grand historien. Et c'est un grand historien qui vivait à Paris et qui a étudié, alors lui, il n'a pas étudié les classes dangereuses, il a étudié les marginaux parisiens au XIVe et au XVe siècle. C'est vraiment du travail de pur historien. Son livre a été publié chez Flammarion en 1976, et je le cite, « Le monde, je cite Guéremec, le monde du crime, il considère qu'il faut envisager le monde du crime comme une partie de la société en général. » Et il précise, l'historien approche celle-ci, la société en général, par le biais de sa frange marginale. Et donc il montre qu'il y a des marginaux, que ces marginaux, ce n'est pas tellement la contre-culture, c'est des gens qui veulent s'adapter socialement, aujourd'hui on dirait être intégrés. Il montre aussi que la société ne peut pas se passer de ces marginaux. Alors quels sont les marginaux qu'il étudie? C'est les mendiants, objets à la fois de compassion et de haine. C'est les prostituées, à la fois réprouvées et tolérées. C'est ce genre de figure qu'il étudie. Et donc, étudier cette marge, c'est étudier la façon dont ces gens qui sont inutiles, c'est des vagabonds aussi, c'est des errants, c'est des meurtriers, eh bien ces gens-là commencent à annoncer des révoltes sociales. Et donc, vous voyez, on trouve aussi chez Guéremec cette idée à la Louis Chevalier, hein, que ceux qui sont vécus comme dangereux, inutiles, malsains et tout ce qu'on voudra, eh bien, préfigurent, annoncent des révoltes, des mouvements sociaux. Et puis, je citerai un troisième auteur, vous voyez que j'ai moi-même vagabondé dans les livres d'histoire. Je vous parle de très grands auteurs. Le troisième, c'est quelqu'un très connu aussi, Eric Hobsbawm. Hobsbawm, historien marxiste, qui est mort il n'y a pas très, très longtemps, très connu pour ses derniers travaux, c'était l'idée c'était les travaux sur l'histoire du XXe siècle, une histoire très, très, très forte, mais un de ses premiers livres très anciens, qui a été publié dans les années 60, s'appelait « Les primitifs de la révolte dans l'Europe moderne ». Et là encore, il étudie des marginaux, des rebelles, des bandits sociaux en particulier, enfin des gens qu'on qualifierait aujourd'hui de marginaux. Et il dit, mais tous ces gens-là, ils préfigurent, et ils le montrent, c'est assez bien fait, ça préfigure le mouvement ouvrier et le mouvement communiste. Il faut dire que c'était un marxiste très pro-parti communiste. Alors, je prends ces trois auteurs, vous pouvez lire leurs livres et donc en sentir mieux ce que je suis en train d'essayer de vous dire, mais socialement, ce qui m'intéresse ici, c'est que certaines figures de la marche, pas toutes bien sûr, mais enfin le vagabond, la prostituée, le jeune délinquant, la pache, etc., enfin ça fait quand même pas mal de choses, et bien certaines figures de la marche, en réalité, sont des préfigurations de révoltes sociales, de mouvements sociaux, de formes politiques importantes comme le parti communiste, et donc il faut prendre ça comme très, très, comment dire, c'est pas du tout simplement de la déviance ou autre, ce sont des choses très importantes. Et donc, le marginal est celui qui sera plus tard central. Le délinquant va devenir le mouvement ouvrier qui va produire la société industrielle. Il va passer de la marge au centre. Pas le même, évidemment, mais ça annonce tout ça. Ce qui va poser d'ailleurs des questions politiques ou idéologiques assez intéressantes. J'en cite une ou deux. Par exemple, est-ce que la marge doit vraiment, quand elle existe, et quand existe en même temps un grand mouvement social, est-ce que la marge doit être pensée dans sa capacité ou non d'être intégrée à ce mouvement social ou à ce mouvement politique? Lénine, par exemple, se méfiait beaucoup de ce qu'il appelait le lumpenprolétariat, hein, le prolétariat en guenille, en haillon. Donc, autrement dit, il y avait le vrai ouvrier et le marginal, il fallait pas mélanger tout ça. Donc, méfiance politique. Bon, enfin, on peut avoir certainement d'autres débats. Premier point. Mon deuxième point, c'est pour vous parler maintenant d'une autre figure marginale, qui vous semblera d'ailleurs bizarre comme figure de la marginalité. C'est une figure qui est apparue dans les années 60 et 70 au sein du bloc soviétique. C'est la figure du dissident. Je voudrais vous dire quelques mots du dissident. C'est-à-dire quelqu'un qui adapte une posture morale, politique, très dur à adopter parce qu'on est dans des régimes qui ne supportent évidemment pas ça, une position de distance absolue avec le pouvoir, une position donc sans concession, qui peut avoir un coût personnel considérable, la prison, le goulag, la torture, les horreurs, l'hôpital psychiatrique, beaucoup ont été mis en hôpital psychiatrique, le camp, l'expulsion de son pays, l'isolement, enfin toutes ces choses très importantes. La dissidence dans le bloc soviétique pouvait être très diversifiée. Il y avait des dissidents qui voulaient surtout parler au nom de la religion ou au nom de la nation. Prenez Solzhenitsyn. D'autres qui parlaient plutôt au nom de la démocratie et de la liberté. Prenez plutôt Sakharov. Bon, mais et puis il y en avait beaucoup d'autres, tous ces dissidents, et c'est pour ça que ça m'intéresse comme figure de la marginalité, ils sont hyper marginaux dans leur pays. Tous ces dissidents ont quelque chose à voir avec les droits de l'homme. Aujourd'hui, on dit de plus en plus les droits humains pour éviter à trancher sur la question de droits de l'homme, droits de la femme. Bon. Alors là, la marge, elle n'annonce pas du tout un mouvement quelconque. Elle n'annonce pas elle ne préfigure pas un mouvement social ou un mouvement politique. La marge vient dire... Il y a des droits fondamentaux que même isolés, même tout seul, de manière, j'allais dire, pure, il faut savoir mettre en avant. Et donc le discours de la marge, c'est le discours des valeurs, c'est le discours des droits humains. Ça force l'admiration, dans certains cas, pas toujours. Ça va rencontrer des soutiens internationaux, pas toujours. Mais le point important, c'est ce caractère exemplaire que moi je trouve admirable d'une exigence morale que seule la marge ou la mise en marge va permettre de faire fonctionner, de faire mettre en avant. Alors ici, il n'y a pas de catégorie sociale particulière, ce n'est pas des riches, des pauvres, vous savez, il y a eu des dissidents qui étaient des gens... Solzhenitsyn est un grand historien, Sakharov est un grand scientifique, enfin, ce n'est pas forcément... des pauvres, des petits gens, il peut y en avoir aussi. C'est pas évidemment des vagabonds, des prostituées, mais enfin, c'est un peu tout socialement qu'on va retrouver dans la dissidence. C'est une question qui n'est pas sociale, qui n'est pas culturelle. C'est vraiment une question que moi je crois à la fois morale et politique. Bon, je pense que c'est très intéressant parce que la marge ici a joué. Je pense qu'on pourrait en tout cas en discuter, a joué un rôle important dans la fin de l'Empire soviétique. Sakharov a joué un rôle important dans la fin de l'Empire soviétique. Les soutiens internationaux, les mobilisations à l'Ouest, etc., sont passés par là. Les accords d'Helsinki, des choses comme ça. Donc vous voyez, mon premier point, c'était la marge comme préfiguration de grandes contestations sociales. Mon deuxième point, c'est la marge comme mise en avant d'une exigence morale qui peut avoir un énorme impact politique, hein, dans certains cas, tout ça n'est pas automatique, hein, je ne vous parle pas de détermination. Enfin. Et enfin, le troisième point, qui est le plus évident, je pense, c'est que la marge comme changement culturel, au cœur du changement culturel. Dans la modernité, dans le discours même sur la modernité, la marge, c'est souvent, pas toujours bien sûr, le propre du créateur, c'est le propre de l'artiste, c'est le propre de l'écrivain, c'est le propre de groupes contre-culturels, de gens qui inventent des modes d'expression, des façons de vivre, à contre-courant précisément des normes, de l'ordre établi, mais sans nécessairement entrer en contact avec lui. Si je vous dis qu'un grand artiste est quelqu'un de parfaitement banal, de parfaitement installé, de parfaitement... vous me comprendrez moins que si je vous dis « Ah, ce grand artiste, c'est un rebelle, il était contre l'ordre, etc. » J'avais visité, je vous dis ça au passage, ça m'avait très impressionné, il y a déjà bien longtemps, une exposition qui s'appelait « Vienne 1900 ». Alors, c'est une exposition à Paris, à Beaubourg. Alors, il y avait toutes sortes d'œuvres là. Alors, à l'endroit où on voyait des tableaux, c'était les tableaux de Vienne 1900, donc tous plus fous les uns que les autres, ou délirants, ou étranges. C'était Egon Schiele, c'était Klimt, etc. Et puis, brusquement, au milieu de tous ces tableaux, parfois un peu Kokoschka, au milieu de tous ces tableaux un peu fous, il y avait enfin des tableaux tranquilles. Alors, un moulin au bord de l'eau, on imaginait un peintre très raisonnable, très intégré, Adolf Hitler. Donc, il y avait deux ou trois tableaux normaux, si je puis dire, qui avaient été faits par Adolf Hitler, et puis ces œuvres de génie des autres. Alors, je ne dis pas ça du tout pour trop insister, mais simplement pour vous dire qu'il y a dans l'idée de créativité artistique quelque chose qui s'accommode très bien de l'idée de marginalité. Avec même parfois l'idée qu'il faut un destin tragique, qu'il faut des grands malheurs, qu'il faut des choses dramatiques, une mère indigne, une enfant, on a eu des traumatismes terribles, la maladie, la surdité, les échecs en tout genre, l'alcoolisme, l'addiction à des drogues, que sais-je, pour fabriquer des œuvres qui ensuite contribueront au changement culturel extrêmement fort. Il faut être un poète maudit, si vous voulez, pour s'appeler Verlaine ou autre. Les poètes maudits, hein, c'est le titre d'un recueil de textes de Verlaine. Et donc, il me semble qu'il est très important d'avoir aussi cette image en tête. Je ne vous dis pas du tout que tous les marginaux sont des grands créateurs, évidemment pas, mais qu'il peut y avoir un apport à la créativité artistique. Sans parler, en rendant d'autres choses, je ne suis pas un grand expert, mais sans parler de la créativité artistique des fous. L'art brut, certains d'entre vous connaissaient l'art brut, c'est-à-dire dans des maisons psychiatriques, on a fait en Suisse, au départ, on a fait dessiner, enfin on a donné de quoi peindre à des malades mentaux, et ça a donné l'art brut, qui a été un grand moment de la vie artistique. Alors, pour compliquer un tout petit peu la chose, j'ajouterais qu'en plus, on peut un peu circuler entre la créativité culturelle et la créativité morale et la créativité sociale dont je viens de vous parler. Hein. Que j'en donne juste un exemple, parce que c'est un texte intéressant de sociologie. Norbert Elias, que beaucoup d'entre vous connaissez, n'est pas très célèbre pour un petit livre, mais qui a été publié, je crois, après sa mort, mais qui est pourtant un livre très intéressant, c'est son histoire-biographie de Mozart. Il y a un petit livre de Norbert Elias qui s'appelle Mozart, sous-titre Sociologie d'un génie. Et en gros, ce que dit Norbert Elias, le génie de Mozart, c'est qu'en réalité, il était il préfigure la lutte de la bourgeoisie face à la royauté, quelque chose comme ça, qui est une dimension sociale dans la merveilleuse créativité de Mozart, parce qu'il se révolte contre les usages qui sont les usages de la cour. Enfin, bon, donc c'est une thèse que défend Elias. Bon. Alors, évidemment, vraiment j'insiste, beaucoup de marginaux ne contribueront en rien au changement. Il ne faut pas non plus me faire dire ce que je ne dis pas, que leur existence n'aura aucune influence, aucun impact, ni social, ni culturel, ni moral, ni aucune suite, bien sûr. Et que, mais quand même, la question existe d'une possibilité d'influence. Et là, alors, on rentre dans d'autres raisonnements. Qu'est-ce qui fait que c'est possible pour la marginalité d'exercer une telle influence? Quelles sont les conditions favorables à ce que de la créativité, qu'elle soit de l'invention sociale ou culturelle ou morale, puisse naître dans des marges, au sein des marges? Alors là, pour réfléchir à cette question que je me suis posée, je vous dirais qu'il me semble qu'il faut réfléchir un petit peu à la façon dont on réfléchit parfois quand on fait de la sociologie ou de la philosophie des sciences. Certains d'entre vous connaissez peut-être le fameux ouvrage de Thomas Kuhn qui explique en gros, qu'en matière scientifique, l'invention est difficile parce que il y a des usages, des habitudes, des façons de penser. Ceux qui vont inventer vont bousculer tout ça. Donc pour qu'il y ait capacité d'invention scientifique, il faut qu'il y ait déjà un petit espace. Si vous êtes trop novateur, en quelque sorte, on ne vous entendra pas. Donc, il faut que la société ait déjà, le monde scientifique, ait déjà commencé un petit peu à bouger, mais pas beaucoup. Mais s'il n'y a pas cette petite espace, alors ça ne se fait pas, le nouveau paradigme sera inaudible, ne sera pas accepté. Bon. Et puis, il arrive un moment où le nouveau paradigme va tellement être fort et va tellement s'imposer qu'il va devenir, comment dirais-je, la norme dans les raisonnements scientifiques, jusqu'à ce qu'un nouveau paradigme vienne à nouveau tout bousculer. Ben, je pense que ce genre de raisonnement, on peut peut-être essayer de l'appliquer en matière en particulier culturelle. C'est-à-dire que les mêmes qui vont bousculer, mais parce qu'il y a un petit espace pour eux, vont bousculer la culture en matière artistique, en matière poétique, en matière de littérature, etc. Les mêmes ont besoin d'un certain espace pour exister, puis une fois qu'ils sont vraiment reconnus, installés en quelque sorte, il y a une sorte d'institutionnalisation qui cesse d'en faire des marginaux et qui oblige peut-être à se dire que la créativité, elle va être ailleurs. Elle sera plus là. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé, mais presque. Je voudrais dire que toutes ces remarques que je vous ai faites ce soir, je pense que, oui, je tiens à peu près mes délais, toutes ces remarques procèdent de lectures que j'ai pu faire, de travaux, qui ont pour l'essentiel été conduits soit dans le cadre, dans l'époque, dans l'ère industrielle, soit au moment où on sort de l'ère industrielle. Mais qu'aujourd'hui, il faut peut-être apprendre à réfléchir autrement à toutes ces questions dont je viens de vous parler. Premièrement, la plupart des pensées que j'ai évoquées fonctionnent dans le cadre de ce que Ulrich Beck, est un très grand sociologue allemand qui est mort il y a 2 ans bientôt, Ulrich Beck appelait le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire le fait de penser dans le cadre d'un État-nation. Je pense que tout ce que je veux dire se renvoie à ce cadre. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut s'intéresser aux marges, il faut les penser globalement, et pas seulement dans le cadre de l'État-nation, et en particulier avec les phénomènes migratoires. Bon. Donc, il faut sortir de notre cadre national français si on veut réfléchir aujourd'hui à ce que sont les marges. Je pense ensuite, c'est mon deuxième point, que l'ère industrielle, dans l'ensemble, a été dominée par les pensées du système. Je ne dis pas qu'elles ont eu l'exclusivité. Et qu'aujourd'hui, on est rentré dans une période où on s'intéresse de plus en plus à partir de l'individu et même de sa subjectivité, des processus de subjectivation et de désubjectivation. Et donc, je pense que réfléchir sur les marges, ce sera de plus en plus réfléchir à ce type de processus. Moi, je le vois dans des domaines qui ne sont pas tout à fait les études de la marginalité, mais enfin, qui ne sont pas très loin, d'une certaine façon. La déviance absolue, le terrorisme. Aujourd'hui, les gens qui disent les choses les plus intéressantes sur le terrorisme sont ceux qui partent des processus de subjectivation et de désubjectivation des acteurs terroristes. Et bien, je pense de façon plus générale que, un, oui, il faut sortir du nationalisme méthodologique pour penser globalement, et que, deux, les marges, et deux, nous sommes, là, ce n'est pas un choix, c'est une tendance générale, nous sommes de plus en plus dans des univers où le point de vue qui part de l'acteur ou du sujet prime sur le point de vue qui part du système et de la société. Et donc, voilà, au moins, c'est ce qui va nous obliger à réfléchir un petit peu autrement. Et j'espère, et je termine là-dessus, j'espère que ce que je vous ai dit n'est pas du tout trop normatif. Je ne me sens pas du tout marginal dans ce que je suis en train de vous dire, n'ayez crainte, mais je pense qu'il faudra une certaine prudence lorsque nous abordons ces questions. Et j'ai donc voulu essayer de vous montrer qu'il fallait savoir circuler quand même entre des approches différentes, des perspectives qui sont variées, des possibilités qui sont diverses. Il n'y a pas une théorie. Moi, je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir une théorie unifiée des marges ou de la marginalisation. Qu'il s'agisse de regarder ce qui produit les marges ou de regarder plutôt ce qu'elles sont susceptibles de produire. Voilà ce que je voulais vous proposer pour lancer une discussion au début de votre printemps. Vive le printemps. Merci.
Alors, je ne sais pas si... Je vais prendre... Si actuellement, on est en train de vivre un printemps à la mode lilloise, ou... C'est un printemps quoi, qui ressemble un peu à un hiver, je ne sais pas si c'est une idée marginale ou pas, mais en tout cas, pour un printemps, c'est un printemps bizarre. En tout cas, merci de l'invitation à la Mèche, et merci à Michel Vigorca pour cette présentation. Alors, Martine m'a donné comme rôle de lancer la discussion, avec l'idée, bien sûr, que l'essentiel serait ensuite les discussions avec la salle. Donc, je vais avoir quelques remarques qui me sont venues au fur et à mesure de la conférence. Je ne sais pas si elles sont très pertinentes, mais bon, ou parfois même impertinentes. Mais je vais les faire telles quelles. Alors, je vais partir un petit peu d'exemples qui ont été évoqués, qui m'ont moi aussi, fait souvenir d'anecdotes, et notamment l'art brut. C'est-à-dire que j'avais visité à Lausanne le musée de l'art brut, qui a été construit par Buffet, et je m'étais posé la question, en fait, de est-ce qu'effectivement ce sont des artistes, ou est-ce qu'ils sont construits comme artistes par Buffet. Et alors, Buffet lui-même, est-ce qu'il est marginal ou pas? Est-ce que finalement, le fait que l'art brut soit reconnu comme art brut n'est pas, qui peut sembler marginal justement, n'est pas lié au fait qu'à un moment, il n'est plus considéré comme marginal, et que finalement, ce qui ferait la réussite de ce qui est une marge, c'est le fait de n'être plus en marge, précisément. Le deuxième, c'était sur Hitler. Alors, est-ce que Hitler, on ne pourrait pas dire qu'il était en marge? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il était innovant? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il a été à l'origine de nouveaux conflits sociaux? Autrement dit, est-ce que, indépendamment du fait que sa peinture n'était pas marginale, il ne pouvait pas, sur d'autres plans, être considéré comme marginal, ce qui rappelle l'idée que voilà, il y a différentes dimensions et on est peut-être chacun marginaux sur certains points, et que certes la marginalité, elle peut produire des choses qui peuvent être des choses nouveaux conflits sociaux. J'avais l'impression que c'était plutôt pensé comme positif. Les valeurs de démocratie, j'avais l'impression que c'était plutôt pensé comme positif. Les innovations, ça semblait être plutôt pensé comme positif. Mais qu'il peut y avoir des innovations et des nouveaux conflits sociaux qui sont rattachés à une marginalité, mais qui ne sont pas nécessairement positifs. Et puis le troisième petit élément auquel ça m'a fait penser, c'est simplement que je suis dans les enseignements que je suis supposé assurer. En fait, je fais une préparation concours de Sciences Po, et une des thématiques, c'est la radicalisation. Précisément, un des fils conducteurs, c'est penser l'articulation entre radicalisation, anormalité, pathologie, mais aussi modération ordinaire, et finalement, voir en quoi ce qui peut être considéré comme radical n'est pas si radical, et en quoi la dichotomie entre modération et radicalisation n'a rien d'évident. Et pourquoi je dis ça? Parce que d'une part, un ensemble des travaux qui ont été évoqués, je les utilise aussi, mais je les utilise avec le terme radical. Donc c'est la question, déviance, radical, marginalité. On voit bien, du reste, quand on utilise les travaux états-uniens, ça pose la question de la traduction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va appeler, à partir de quand on va dire qu'on est sur de la marge marginale, ou du radical, ou du déviant, ou du délinquant, etc., etc. Voilà, pour quelques premières remarques. Ensuite, je vais développer quelques points, mais qui sont... Il y a un point qui me semble, alors, que tu as abordé en début de propos, et que tu n'as pas vraiment repris, alors qu'il me semble que c'est un point qui, de mon point de vue, mais alors c'est un point de vue qui est situé lui-même, est essentiel. J'étais le directeur du CERAPS, hein, parce que tu n'as pas cité le nom, donc je me permets, pour faire de la pub. C'est l'épistémologie de la marginalité. C'est-à-dire tous les travaux qui insistent sur l'idée que c'est en travaillant sur la marge qu'on va comprendre le centre, le normal. Alors je reviendrai sur l'antonyme de la marginalité, parce que j'ai pas de... Mais travaille, je sais pas, la rumeur d'Orléans, ou la façon dont on va travailler finalement sur des situations extraordinaires pour comprendre l'ordinaire. C'est le travail de Michel Daubry sur les crises, pour comprendre là aussi les situations ordinaires normales. C'est un ensemble d'auteurs qui vont dire on travaille par le vide pour comprendre le plein. C'est aussi la façon dont on va travailler sur des sociétés qui peuvent sembler marginales, pas simplement pour les comprendre, mais pour comprendre nos sociétés. Le travail qui est une façon de faire de l'anthropologie, mais qui n'est pas dans l'idée de comprendre ces sociétés, mais de mieux comprendre nos sociétés en décentrant le regard. Donc il me semble que c'est un des éléments très forts autour de cette question de la marginalité. Ensuite, deuxième remarque, c'est comment, alors qui est un peu rattaché à ce que je disais sur Hitler, c'est comment sortir de la dichotomie misérabilisme-populisme. C'est-à-dire que la deuxième partie du propos avait tendance, alors même s'il y avait plein de moments de nuance, il me semble à survaloriser l'aspect positif de la marche. Est-ce qu'on ne pourrait pas insister sur le caractère réactionnaire de la marche ou plus largement sur un ensemble de travaux qui insistent sur la façon dont, alors parfois souvent contre elle, la marge peut participer à consolider le centre. Les travaux d'Durkheim, les travaux de Foucault, moi je les lis de ce point de vue-là, c'est-à-dire la façon dont une marge qui peut être construite par le centre, pour le centre, et qui permette finalement de consolider le centre en marginalisant, alors j'insiste sur marginalisant, en construisant une marge qui permet de mieux finalement défendre le centre. On peut aussi voir tous les travaux finalement dans la lutte marxienne sur le rapport entre centre et périphérie, la façon dont finalement le centre va se consolidant en exploitant finalement une périphérie qui est une marge. Ce qui pose aussi la question que je soulignais juste avant, de l'antonyme de la marge. Alors, je n'ai pas de réponse, mais ce qui va sur le côté la marge ou les marges. C'est pas très... mais alors, je rattachais ça aux travaux de Merton. Justement, ce qui est assez intéressant chez Merton, c'est la différence dans les types de déviance. Et finalement, on va avoir le normal, en quelque sorte, qui s'oppose à quatre types de déviance différentes, qui sont quatre types de marginalité différentes, qui amènent à penser différemment la construction de ce qu'on appelle la marge, ou ce qui fait qu'on est marginal, et aussi les effets de la marginalité. Mais précisément, ça conduit à s'interroger sur marge et marge, ou marginalité et marginalité. Alors ça part un petit peu dans tous les sens, je suis désolé. Je me demandais si c'est la marge qui définit le centre ou le centre qui définit la marge. Et si on n'était pas chacun le marge d'un autre, donc ce qui m'a amené un autre travail de Goffman sur Stigmat, qui est assez intéressant de ce point de vue. Alors, toujours dans mes remarques, j'en ai plus tant que ça, hein, qui vont dans différents sens. Donc tu disais à plusieurs manières, à plusieurs reprises, que c'est la société qui produit la marge, ou qu'on a tendance à regarder plutôt comment la société produit la marge. Mais il me semble qu'il y a deux manières de dire que c'est la société qui produit la marge, que tu rattachais à la construction et à l'explication. Mais il me semble que dans les deux cas, avec la construction et l'explication, dans les deux cas, on dit qu'effectivement c'est la société qui construit la marge, mais dans un cas, c'est l'idée que la société, elle va conduire un ensemble d'individus, de groupes, à avoir des comportements qui sont considérés comme des comportements marginaux. Et dans l'autre cas, donc ça c'est plutôt l'explicatif en quelque sorte, et dans l'autre cas, on dit que la société va en venir à étiqueter comme marginaux un ensemble d'actes qui pourraient être considérés comme non marginaux. Et donc ce n'est pas exactement la même chose de mon point de vue, parce que dans un cas, finalement, on est sur l'idée que ces actes sont vraiment marginaux, pour le dire, et dans l'autre cas, c'est l'idée qu'ils sont construits comme marginaux, même si le fait qu'ils soient construits comme marginaux peut les rendre marginaux. Mais toute l'idée de Baker, notamment, c'est de dire que finalement, un tel et un tel peut commettre le même acte, mais que la société va considérer comme marginal d'un côté, et dans l'autre côté, ne va pas construire comme marginal. Ce qui est différent, il me semble, même si les deux peuvent se... ce qui pose aussi, dans l'autre côté, la question du choix de la marge et des conditions de possibilité du choix de la marge. Alors ça m'a rappelé une thèse que j'avais examinée, qui portait sur les décroissants, et notamment sur la question des toilettes sèches,
et qui montrait que, en fait, pour pouvoir mettre en place des toilettes sèches, il faut être propriétaire. C'est-à-dire que si vous êtes locataire, c'est difficile de mettre des toilettes sèches chez vous. Si bien qu'il y avait des conditions, c'est-à-dire qu'il fallait être assez intégré dans la société pour être propriétaire, pour pouvoir ensuite avoir un comportement qui peut être considéré comme en marge. Pour pouvoir choisir la marginalité, il fallait avoir la possibilité de pouvoir s'offrir d'être marginal, entre guillemets. Alors, encore une fois, ça dépend de quelle marginalité on parle, mais entre cette marginalité contrainte et cette marginalité choisie, se pose la question des conditions de la marginalité. J'avais laissé... J'ai mis un mauvais endroit sur la marge comme renforcement le pouvoir en place. J'avais pensé aussi au lumpen prolétariat. J'avais pensé aussi au terrorisme avec l'idée que la marge ne serait efficace qu'à partir du moment où il n'est plus considéré comme la marge et que le terrorisme est efficace que quand il n'est plus considéré comme terrorisme, c'est-à-dire quand il en vient à être institutionnalisé, à devenir la Palestine plutôt que l'OLP, pour le dire rapidement. Enfin, la façon dont tu présentes les choses laisse supposer qu'il n'y a pas de créativité par le centre. Est-ce que c'est si évident? Et est-ce qu'on ne peut pas penser... Mais c'est une autre façon de penser marginalement par rapport à ce que tu disais. Et le dernier point qui est rattaché à tout ce qui a été dit par ailleurs, c'est la question des dynamiques de marginalisation et d'institutionnalisation, c'est-à-dire la façon dont se nourrissent progressivement des marginalités et des formes d'institutionnalisation, ce qui amène à nouveau à penser l'antonyme de la marge. Est-ce que l'antonyme de la marge, c'est le centre ou c'est l'institutionnel ou c'est est-ce que l'ordinaire, etc., etc. Bon, je suis désolé pour ces remarques qui étaient un petit peu dans tous les sens, mais qui doivent participer à nourrir la réflexion.
Bon, je pense que je ne vais pas répondre à 50 remarques toutes intéressantes, mais je vais essayer de faire 2-3 commentaires sur les commentaires plutôt. Hein. Bon. Alors, il y a une idée forte dans ce qui vient d'être dit, c'est l'idée, enfin une première idée forte, qui est que quand la réussite du marginal, c'est quand il sort de la marginalité. Mais du coup, il cesse d'être marginal et d'être capable d'avoir l'apport qu'on avait quand on était marginal. Alors ça me fait penser à un débat qu'il y a eu sur la pauvreté il y a quelque temps, en gros, qui consistait à dire la pauvreté c'est terrible, comme enjeu pour des politiques, parce que d'un côté, on va dire aux pauvres, vous avez une culture qui mérite d'être respectée, il y a une culture de la pauvreté, mais d'un autre côté, on vous dit, l'important, c'est qu'on va vous aider à sortir de la pauvreté. Alors, comment aider des gens à sortir de ce qu'ils sont en les privant de ce que, dans la situation antérieure, de ce qui leur permettait d'exister, de se valoriser, etc. Donc, c'est ce genre de questions, je n'ai pas la réponse. Moi, j'aime bien, vous savez, les réunions où on sort avec l'idée qu'on a encore plus de questions après qu'avant, hein, donc je ne répondrai pas forcément. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à cette discussion. Alors, oui, il y a des phénomènes très intéressants à étudier, je crois, qui sont ces phénomènes où ce qui est marginal à un moment cesse de l'être. Et parfois, ça mérite vraiment, en politique en particulier, qu'on s'y arrête. Moi, je me souviens d'une époque, dans les années 80, où on était un certain nombre à dire « il faut interdire le Front National », qui était encore une petite chose, marginale. Et on disait « il faut l'interdire maintenant ». Aujourd'hui, personne n'oserait dire, je crois politiquement, « il faut interdire le Front National », parce qu'il n'est plus marginal. Mais dans 85, par là, dire « il faut interdire le Front National », c'était encore une force politique marginale. Donc, ce genre de questions existe, et je suis tout à fait d'accord, Hitler, il commence, c'est pas grand-chose. C'est des gens qui font, à Munich ou je ne sais où, qui cassent la figure à d'autres, des choses comme ça. Enfin, au début, ça n'est pas grand-chose. Et puis, bon, ce qui veut dire aussi, alors là, tu as mille fois raison, moi j'ai insisté sur l'aspect créatif de la marginalité. La marginalité, ça peut aussi avoir un effet opposé. Ça peut fabriquer de la destruction. Ça peut fabriquer du mal. Moi, j'ai insisté sur le côté bien, hein, pour le dire comme ça. Et, bon, mais on peut dire aussi que la marginalité fabrique des choses terribles. je sais pas, enfin, vous trouverez mille et un exemples. Regardez cette affaire, cette femme de Polanski qui avait été assassinée par un gourou. Voilà, donc la marginalité, ça fabrique aussi des abominations comme ça. Donc là-dessus, je suis absolument, absolument d'accord. Alors j'en arrive à la question la plus importante pour moi. C'est que, dans la plupart des remarques que tu fais, en réalité, tu nous dis, mais alors, quel concept pourrait-on avoir de la marge, de la marginalité? On n'en a pas. Alors, on peut s'en sortir en disant la marginalité, c'est ce que moi j'appelle comme ça. Ou la bon, il y avait un inventeur d'un test très célèbre, Binet Simon, le test d'intelligence. Alors, je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'est Binet. On lui avait dit, mais c'est quoi l'intelligence? Et il avait répondu, c'est ce que mesure mon test. Ah, parfait. Donc, la marge, c'est ce dont je vous parle. Bon, simplement, c'est quand même une catégorie, une catégorisation pas très élaborée. Et c'est embêtant. Le problème, c'est qu'on utilise les mêmes mots dans des acceptions qui se veulent scientifiques, sociologiques, politologie ou autres, peu importe, d'un côté, ou même juridique, et d'un autre côté, on les utilise dans la vie courante. C'est un marginal, il vit aux marges de la société, enfin ce genre de formule. Donc, pour un très grand nombre des mots que nous utilisons, on ne sait pas très bien sur quel registre on est. Et donc, est-ce qu'il est possible, c'est ça que j'entends dans beaucoup des questions que tu as formulées, est-ce qu'il est possible de proposer un concept solide de marge ou de marginalité? J'en suis pas certain. En tout cas, ce n'est pas l'exercice que j'ai essayé de faire. Mais c'est cet exercice-là qu'il faudrait au moins tenter. On aurait peut-être des grandes surprises. Alors, je continue quand même à avancer sur des points que tu as évoqués qui m'ont semblé intéressants. Sur qui peut... Qui peut penser mieux? Est-ce que c'est les gens marginaux ou les gens qui sont au centre? C'est une vieille discussion, y compris chez les marxistes. J'ai un peu oublié toute cette littérature, donc il y en a peut-être ici qui s'en souviennent mieux que moi. Lukács expliquait que la bourgeoisie ne peut pas analyser correctement le capitalisme, que seuls les prolétaires peuvent le faire. Je ne me souviens plus du détail, j'ai lu ça il y a 35 ou 40 ans. Mais il y a donc des traditions intellectuelles qui ont essayé de dire ce genre de choses, qu'on ne peut bien penser, ce qui est une drôle de chose, on ne peut bien penser que si on est à la marge, en bas, dominé, etc. Mais on pourrait très bien dire le contraire. J'appartiens à une institution, je vous raconte ça parce que ça m'avait fait beaucoup rire. J'appartiens à une institution où on dit, à l'école des études en sciences sociales, il faut surtout quand on embauche des nouveaux directeurs d'études ou des nouveaux maîtres de conférences, il faut surtout se méfier de ceux qui viennent parler de ce qui est leur communauté, leur pays, leur situation. Autrement dit, quand un candidat se présente avec un projet sur l'Iran, si le type est iranien, on dira « Oh là là, danger, il faut sûrement... » Non. Mais je me souviens d'une élection où, justement, se présentait un grand spécialiste de l'Iran, et qui était iranien. Il y a quelqu'un qui a pris la parole et dit « Écoutez, je sais qu'ici, on aime bien dire qu'il vaut mieux... avoir une grande distance par rapport à son objet et donc ne pas être concerné, Enfin, quand même, quelqu'un qui connaît l'Iran et qui a vécu 40 ans, il a peut-être des choses intéressantes à nous dire sur ce pays. Oui, bon, mais c'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut être dedans pour parler ou dehors pour mieux... Est-ce qu'il faut être au cœur ou à l'extérieur pour mieux parler de quelque chose? Je crois que la réponse que j'essaierai de faire, c'est... Je parle en sciences sociales, c'est il faut être capable d'introduire de la distance. Donc, ce n'est pas le marginal lui-même qui va nous parler. Mais est-ce qu'à partir de ce que dit le marginal, je comprendrai mieux que si j'écoute ce que dit la personne qui est au centre? Mais je serais prudent. En tout cas, c'est vraiment des belles questions. J'avais un souvenir en t'écoutant qui m'est revenu à l'esprit. Il y a, d'ailleurs, c'est très intéressant, dans la décomposition du fonctionnalisme, est apparu dans les années 60 un courant qui s'est baptisé ethnométhodologie. Garfinkel, bon, qui s'inscrit dans toutes sortes de courants, mais enfin, l'ethnométhodologie est associée à ce nom. Et Garfinkel montre que quand on étudie les choses en prenant un point de vue inhabituel, on découvre le fonctionnement de la société. Et il prend l'exemple, il y a un texte très célèbre de lui, qui est l'exemple de quelqu'un qui était un homme et qui est devenu une femme. Ce personnage a un prénom que j'ai oublié dans le livre de petits essais de Garfinkel. Et c'est très intéressant. Du jour où on devient une femme, eh bien, on s'aperçoit que la vie est très différente. Et on comprend mieux le fonctionnement normal de la société le jour où on devient anormal, en quelque sorte. Donc, c'est ce genre de...
gentil de dire devenir une femme, c'est devenir anormal. Mais
je te laisse. On devient anormal par rapport à ce qu'on était auparavant. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est ce genre de démarche. Ou même, je prends un exemple encore plus amusant. Vous connaissez tous ces émissions du genre caméra invisible, où en réalité, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui met en scène la caméra invisible met les gens dans des situations inhabituelles et regarde ce qui se passe. Et on découvre le fonctionnement de la société à travers le côté inhabituel, donc le côté peut-être marginal. Alors voilà le genre de remarque que je voulais encore faire. Il y a peut-être quelque chose, peut-être beaucoup, même, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faudrait évoquer, mais c'est vraiment, alors il y a une question intéressante qui est objectivité ou subjectivité quand on parle de la marge. C'est-à-dire, est-ce qu'en disant ça c'est marginal, je décris une réalité objective, ou est-ce que je suis dans la subjectivité, par exemple, du centre qui ne comprend pas ce qui se passe en réalité. Est-ce que le discours sur les marges peut être parfaitement objectif? Est-ce qu'il est nécessairement toujours subjectif? Les deux sont, dans leur pureté, sont inacceptables. Si je suis uniquement dans l'objectivité, ça veut dire que le discours des acteurs, ou de ceux qui s'opposent aux acteurs, n'a aucun intérêt. Je dois pouvoir dire, objectivement, ça c'est marginal. Mais donc, c'est quand même un peu limité. Ça ne reconnaît pas la parole des acteurs. Mais si je dis, la marginalité, c'est ce que disent certains d'eux-mêmes ou d'autres, on est dans la pure subjectivité. Alors moi, je dis, ce monsieur est marginal. Toi, tu dis, non, ce monsieur est parfaitement central. Bon, et le monsieur lui-même, il ne sait plus où il en est. Où il dit, bon. Donc, si on est dans le... dans le relativisme, en réalité, on ne s'en sort pas non plus. Donc, je crois que c'est le genre de problème aussi assez délicat. Mais, bon, voilà, de ce genre de choses que je voulais
dire. Vous remercie grandement pour cette conférence d'ouverture et on vous dit à très bientôt pour les prochaines séances du printemps. Merci.